J'ai levé les yeux. Le patron me croyait endormi. Alors l'infirmière a continué. Des enfants se sont rendus jusqu'au matin, trempés, terrorisés, poignets tendus pour les menottes à peine arrivées sur le chemin de ronde. D'autres sont revenus avec les gendarmes, mains ligotées dans le dos. Un tout jeune a été ramené au porche par une famille guerrière, le père, la mère et leurs trois enfants. Tous les fuyards ont été battus, les gardiens étaient en colère, leurs collègues avaient été blessés, du mobilier cassé, la cour empestait encore l'incendie, mais pire encore, ils avaient été obligés de courir toute la nuit, de monter sur leur vélo pour patrouiller, en service. Hors service, les gaffes s'étaient épuisés sous la pluie et dans le vent, se tordant les chevilles sur les chemins semés de fondrières, alors qu'ils pensaient dormir tranquilles dans leur lit. Au milieu de la nuit, alors que les gendarmes avaient regagné la caserne, que les habitants étaient barricadés chez eux, que les routes de l'île étaient désertes, ils étaient encore debout et ils se vengeaient. Les fuyards ont été fouillés au corps et jetés dans les cachots, cul nus, avec une simple chemise sur le dos, sans boire ni manger. Quelques meneurs ont été enfermés dans les chambres de sûreté, où la lumière du jour ne perce que par une cheminée garnie de pointes. Pendant des heures, l'infirmière les a entendus hurler de douleur et de colère sous les coups de matraque et de nerfs de bœuf. Avec le docteur Verag, elle a voulu leur porter secours, mais le directeur a refusé. « Ils sont enragés, c'est trop risqué pour vous cette nuit. » Vers 3 heures du matin, les gardiens ont tenu conseil dans le réfectoire dévasté. Le directeur était parti se coucher. Chautan a fait le compte. 16 colons manquaient encore. À cause de l'orage, les derniers évadés avaient dû fuir les lits de fougères et chercher un abri. Dans les tunnels militaires, sous un arbre, un toit en ruine, une barque retournée, les plus jeunes devaient être effrayés par les éclairs. Le gardien-chef tournait en rond dans la pièce, cravache à la main. Les trombes d'eau le faisaient jubiler.
« Ils vont connaître le châtiment de la solitude !»
La chasse aux enfants était suspendue, mais ils savaient qu'elle reprendrait à l'aube. Que les colons gelés, terrorisés, se rendraient d'eux-mêmes au rabatteur, qu'ils se jetteraient à genoux dans la boue et les mains sur la tête pour un morceau de pain, un bol de café délavé, une cigarette. Qu'ils supplieraient de laisser sécher leurs bourgerons trempés, leurs pantalons à tordre, leurs sabots blessants, et que cela leur serait refusé. Qu'ils resteraient comme ça des heures, au garde-à-vous dans la grande cour, une leçon pour les autres. Avant d'être transféré en ferry à Quiberon, entassé dans le compartiment spécial d'un train pour Villeneuve-sur-Lot, puis dans le car cellulaire qui les conduirait au pénitencier d'Ess. À 10 heures du matin, 15 nouveaux évadés étaient rentrés à la colonie. L'abeille était l'un d'eux. Par groupe de 2 ou 3, comme des bêtes traquées, encordées les unes aux autres. Puis ils ont été exposés à leurs camarades couverts de pluie et de vent le long d'une allée agricole. L'abeille saignait de la bouche et du nez. Il se débattait sous les liens.
« Ma peau vaut plus que 20 francs, bande de salauds !»
L'infirmière a vu tout cela. Elle me l'a raconté avec tristesse. Mais il manquait un colon à l'appel. Et c'est là qu'elle a entendu mon nom. Dans le grand préau.
La teigne,
chuchoté par le goff, répété par le rosse, par le père Bricou qui torturait son chapelet. Je n'étais pas rentré. Le directeur était en colère. Il ne comprenait pas que j'ai pu échapper aux recherches.
On est sur une petite île, pas dans la casbah d'Alger tout de même.
Au moment où l'infirmière reprenait son service, 2 journalistes sont entrés dans la colonie. Un rédacteur et un photographe. François Donatien de Colmont avait lui-même appelé la direction locale de l'Ouest Éclair en lui promettant un scoop. Les reporters ont été accompagnés à l'infirmerie par Le Goff et Toupet avec sa vilaine tête nue. Aucun bastonné sur les lits, pas impuni, mais 4 jeunes colons frigorifiés qui avaient passé la nuit dehors.
« Nous aidons ces jeunes pupilles à s'en remettre !»
avait déclaré le directeur, surveillant du coin de l'œil le stylo du journaliste qui courait sur son carnet. Il a expliqué que des meneurs avaient fomenté la révolte et que ces enfants-là les avaient bêtement suivis. Sans les gendarmes, ils seraient probablement morts noyés à l'heure qu'il était, et sans les soins prodigués par la colonie, un